au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Nous sommes mercredi, c'est le 4 février. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Au menu de l'émission aujourd'hui avec Pierre Paquette, il sera question d'un vent de discorde qui souffle sur la CAQ et de François Legault là, qui joue déjà la belle-mère. On aura avec nous aussi Marcel Papin et Simon Duval de l'Union des producteurs agricoles de Lanaudière. Ils dénoncent le projet de train à grande vitesse là, entre Québec et Toronto. Ce projet de train là, devrait passer sur le territoire lanaudois, rappelons-le. Également, Daniel Larocque, président de Phoenix Technologies, monsieur qui vient en aide aux entreprises avec des problèmes de recrutement de personnel. Mais tout d'abord, l'Association des restaurants Québec parcourt les régions là, actuellement pour parler de l'importance de l'achat local et pour encourager nos producteurs locaux. Il y a un salon qui avait d'ailleurs lieu à Saint-Roch-la-Chigan et cette campagne coïncide là, avec la guerre des tarifs que nous mènent les Américains. Pierre Jubinville a eu l'occasion d'en parler avec Martin Vézina. Il est vice-président de l'Association Restaurants Québec.
Ben, nous, nos salons RQ Contact vont dans différentes régions du Québec et aujourd'hui, on s'arrête dans la région de Lanaudière, plus précisément le complexe JC Perrault à Saint-Roch-de-la-Chigan. Puis notre but aujourd'hui, c'est de faire connaître une offre de produits aux restaurateurs de la région et de leur faire connaître principalement aussi des producteurs, des transformateurs locaux afin qu'ils puissent développer des maillages entre eux et ainsi faire mieux connaître les produits de la région.
Vous voulez privilégier l'achat local. Est-ce que c'est toujours possible?
C'est toujours possible. On est dans une région qui est quand même riche au niveau de l'agriculture, dans la Lanaudière. Donc, on peut trouver effectivement, l'objectif, c'est justement créer ces maillages-là avec les gens de la restauration de la région, faire valoir ce savoir-faire puis les produits qui sont conçus dans la région. Puis on dit toujours, nous, la restauration, c'est une excellente vitrine parce que souvent, des produits, c'est par les restaurants que les gens les découvrent et par la suite, ben ils prennent goût puis vont peut-être aller à en avoir au détail ou à le cuisiner chez eux.
Est-ce qu'on peut manger entièrement local?
Il y a des établissements qui le font. Fait que oui, c'est possible. Il y a certaines difficultés. Il y a des produits qui sont plus durs à trouver au niveau local, là, quand on peut penser au sel puis à l'huile. Là. Donc, il y a certains produits que c'est plus difficile, mais on connaît des exploitants au Québec qui réussissent à faire des menus 100% québécois.
Donc, la tendance, c'est quand même maintenant à l'achat local. Le conflit avec les Américains doit jouer dans la balance?
Bien, c'est sûr que ça l'a amené les restaurateurs à réfléchir davantage à leurs approvisionnements. Et c'est pour ça que plusieurs, travaillent à obtenir plus de produits locaux avec leurs distributeurs, puis développer des menus en ce sens qui ont des ingrédients locaux. Nous, pour notre part, on a un programme d'achat, nous, à l'association. Et dans le cadre de ce programme d'achat-là, on a développé un catalogue de produits québécois pour guider les adhérents au programme d'achat là, pour savoir quels aliments là, sont vraiment vérifiés par Aliments du Québec.
Dites-moi, ça se passe comment pour la restauration en général? On parlait en début d'année de fermetures massives de restaurants. Quels sont les facteurs qui défavorisent justement la restauration?
Bien, je vous dirais qu'il n'y a pas nécessairement des fermetures massives d'un restaurant. Ce qu'on voit dans la dernière année, c'est qu'au net, il s'est ouvert plus de restaurants qui s'en est fermé. Je vous dirais que c'est la logique de l'industrie. On en ferme beaucoup, on en ouvre beaucoup. On a toujours une industrie à fort taux de roulement, donc c'est quelque chose qu'on voit. Je vous cacherai pas que ce qu'on ressent actuellement, c'est de l'inquiétude. C'est un peu d'épuisement de la part des gestionnaires, puisque il y a la gestion des coûts qui augmente et qui augmente, qui rend ça difficile dans un cadre où notre marge bénéficiaire est de 2 à 3. Et l'autre, mais c'est toute la question de la main-d'œuvre. Beaucoup d'inquiétude. Beaucoup de gens ont de la misère à trouver tous les employés qu'ils ont. D'autres qui s'étaient tournés vers les travailleurs étrangers temporaires vivent avec les nouvelles règles qui font qu'ils vont devoir choisir de s'en départir. Et d'autres qui voulaient peut-être emmener ces travailleurs étrangers-là à accéder à la résidence permanente, mais là, avec l'abandon du programme d'expérience québécoise, on se retrouve avec rien. Donc, je vous dirais, il y a de l'inquiétude, c'est vraiment ces deux facteurs-là, la main-d'œuvre et les gestions des coûts.
Est-ce que vous lancez un cri d'alarme au gouvernement, justement, pour la main-d'œuvre étrangère?
Oui, parce que cette inquiétude-là là, va se traduire, je vous dirais, pour la prochaine saison estivale, avec des changements dans les heures d'exploitation. Il y en a qui vont devoir réduire leur période où ils peuvent recevoir des clients, mais fermer les jours. Puis certains vont réfléchir parce qu'ils vont tellement se sentir coincés de pas avoir les gens, puis de compenser, puis de faire énormément d'heures, que ça va mener peut-être sûrement à des fermetures. Donc, il faut qu'on trouve une façon qu'on puisse renouveler les travailleurs étrangers temporaires qui sont dans l'industrie actuellement. On ne cherche pas à en avoir d'autres, on veut juste tenir ce qu'on a, parce que ça nous permet d'arriver à une idée au niveau de la main-d'œuvre.
Ils sont nombreux dans la restauration.
Ils sont tout de même nombreux, beaucoup. C'est un ou deux cuisiniers, mais je vous dirais, un ou deux cuisiniers dans plusieurs établissements, c'est là qui fait la grandeur du nombre. Et c'est pas beaucoup par restaurant, mais c'est tout ce qu'il faut pour faire avancer. Et on n'a pas de personne locale qui dépose de candidature. Enfin, les restaurateurs se voient dans l'obligation d'aller en ce sens. Et c'est ce qu'il leur faut pour maintenir justement des heures d'exploitation qui sont convenables et qui leur permettent à tout le moins de faire un léger profit à la fin de l'année.
Et c'est une main-d'œuvre fiable?
Elle est fiable. Elle s'intègre ici. Beaucoup ont commencé à parler le français. Donc, il y a tout un travail qui se fait derrière avec ces gens-là qui découvrent la culture au travers de nos recettes puis qui commencent à connaître le français, connaissent des coins de pays, parce que beaucoup se trouvent en région, au Québec, dans la restauration. Donc, je pense qu'il faut profiter de ce savoir-faire, puis ce sont des gens qui demeurent à l'emploi, là.
Voilà, c'était Martin Vézina. Il est vice-président de l'association Restaurant Québec Pierre Jubainville. S'est entretenu avec lui. Je lève mon chapeau aux restaurateurs. S'il y a bien un métier qui n'est pas un métier, mais une profession, c'est celle de restaurateur. C'est du travail presque 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, parce qu'on y pense même quand on se couche le soir à notre restaurant. Et particulièrement depuis la pandémie où c'est pas évident. Là, rajouter à ça le programme des travailleurs étrangers temporaires. En plus de ça, ben ce qu'on mentionne pas aussi dans tout ça, c'est le no-show. On a parlé de ça dans les derniers mois, en 2025, du fameux no-show, les gens qui réservent et qui se pointent pas à leur réservation. C'est pas facile. C'est pas facile comme métier. Et je salue bien bas ces gens-là qui nous préparent d'excellents soupers, d'excellents repas. Bon, à venir dans les prochaines minutes, Daniel Larocque, il est président de Phoenix Technologies. Il vient en aide, lui, aux entreprises avec des problèmes de recrutement de personnel.
Confiez votre véhicule à des pros de confiance. Chez Lustre Auto Saint-Félix, on redonne l'éclat d'un véhicule neuf grâce à notre gamme complète de services. Lavage intérieur et extérieur, cire rapide lustrée, traitement aquapelle longue durée, restauration des phares et bien plus. Un service professionnel, des prix compétitifs et la satisfaction garantie. Venez nous voir au 4164 rue principale à Saint-Félix. Lustre Auto Saint-Félix, bon service, bon prix, puis un char qui brille.
La Semaine nationale de la prévention du suicide se déroule jusqu'au 7 février. Cette année, le thème régional « Ensemble, tissons l'espoir » circulera dans tout Lanaudière. Tu es inquiet pour un proche ou tu penses toi-même au suicide? Joins en tout temps un intervenant du Centre de prévention du suicide de Lanaudière au 1-866-APPEL. 1-866-277-3553.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 pour la qualité des véhicules neufs selon J.D. Power. Profitez de la liquidation sur un Kicks Play S 2025 avec des rabais jusqu'à 1 000 $ en financement et un taux à partir de 0%. Joliette Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
La Nouvelle PM. Emploi.
Il y a un entrepreneur lannaudois, Élie de Terrebonne, qui a décidé de venir en aide aux sociétés qui sont aux prises là, avec des problèmes de recrutement de personnel. Daniel Larocque, il est président de Phoenix Technologies et puis avec son associé Mélissa Tessier, ils viennent de mettre au point la nouvelle application JobLinks pour humaniser, faciliter davantage l'embauche d'employés, comme il l'explique à notre collègue Régent Turgeon.
Monsieur Larocque, parle-moi donc rapidement de votre parcours en affaires.
Bien, le parcours, moi, j'étais entrepreneur général dans les dernières années. Donc, et à 31 ans, avant ce parcours d'entrepreneur général, j'étais dans les technologies en tant que programmeur analyste également.
Qu'est-ce qui vous a incité à lancer justement cette application-là, JobLink, qui est une application québécoise conçue pour humaniser le recrutement, mettant de l'avant la rencontre, la culture d'entreprise et le savoir-faire? Vous avez vu un besoin, là?
Définitivement, en tant qu'entrepreneur général, j'avais à recruter, à trouver des talents pour nos équipes. Donc, mes frustrations répétées sur des plateformes traditionnelles où ce que, justement, c'était vraiment où ce que l'humain n'était pas centré. On avait seulement que des CV, des piles de CV. On n'était pas en mesure d'identifier les personnes rapidement. Donc, on s'est retourné sur, justement, les plateformes réseaux sociales où ce qu'on pouvait, justement, avoir un peu plus de visibilité, où ce qu'on pouvait, nous, en tant qu'entreprise, montrer notre culture, notre environnement de travail et faire de la prospection de prospects. Donc, évidemment, ces réseaux-là avaient un certain succès, sauf que c'était pas dédié à l'emploi. Donc, on perdait un temps énorme à filtrer, à rencontrer, puis à trouver le bon fit. Donc, c'est là que l'idée, en tant qu'entrepreneur et ayant aussi d'expérience dans la programmation et les applications ou les logiciels à l'époque, on a dit, OK, on va créer un outil qui, justement, va nous permettre de faire des matchs rapides de ce que l'entreprise recherche et ce que le candidat aussi recherche. Parce que le candidat, aujourd'hui, il veut voir l'entreprise, il veut voir la culture d'entreprise avant de faire un choix. Il veut, avant de s'immiscer ou s'immerser dans une entreprise, il veut voir est-ce que il va trouver vraiment, tu sais, ses attentes envers l'entreprise. Et l'entreprise, aujourd'hui, le savoir-faire était très important à l'époque, mais aujourd'hui, le savoir-être, c'est un incontournable. Donc, le savoir-être, le trouver dans un CV, dans des lignes de texte, c'est un petit peu plus difficile. Donc, on a voulu justement construire un outil qui va nous permettre justement à l'entreprise de montrer qui elle est et également aux candidats de montrer qui ils sont.
L'application là, s'adresse à des employeurs, des entrepreneurs dans tous les domaines?
Oui, présentement, c'est sûr que l'application est pour l'ensemble des domaines d'activité. Nous, ce qu'on vise présentement, c'est vraiment les marchés où ce que toutes les entreprises ou les candidats qui ne sont pas sur LinkedIn, donc 80 % des entreprises et des candidats. Donc, nous, on a ciblé ce marché-là. On veut créer un LinkedIn pour, justement, ces entreprises-là qui sont négligées et candidats.
Là, ça fait 18 mois que vous travaillez sur JobLink. Il a fallu tester le produit. On est fiers de l'endroit où on est rendu là, avec ça. On est prêt à le vendre, là.
Oui, on est très fiers. Écoute, ça a été un long travail. On a construit, on a déconstruit, on a testée, puis aujourd'hui, elle est accessible sur Apple Store, Google Play. Donc, elle est 100% fonctionnelle. C'est fonctionne parfaitement, là. Donc, elle est prête, là. Elle est prête. Et on a déjà plusieurs candidats qui sont sur la plateforme et des entreprises. Donc, on a lancé juste avant Noël. Et c'est sûr qu'il y a eu la période des fêtes, il n'y a pas eu de prospection. Là, c'est maintenant, donc au 1er février, qu'on décide de faire notre marché. Oui.
Une application 100% lannaudoise, Mais on ne veut pas qu'elle soit copiée, cette application-là. Il faut prendre des mesures juridiques, là.
Oui, définitivement. On a nos propriétés intellectuelles sur l'application. Donc, elle est sécurisée pour la propriété intellectuelle.
Ça peut faire une différence dans un marché où on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre, là, dans le Nord-Ouest et ailleurs. Vous vous voyez comme un joueur important au niveau du recrutement maintenant, là, d'employés?
Oui, définitivement. Notre mission, c'est vraiment de devenir l'outil incontournable pour les chercheurs d'emploi et pour les entreprises à la recherche de talents.
Et là, vous avez eu l'appui de la Chambre de commerce puis du milieu économique là, de Lanaudière.
Oui, la MRC Les Moulins nous appuie. On a un appui avec InnoHub La Centrale, qui est un incubateur pour les projets à fort potentiel technologique. Donc, on est bien appuyé dans la région et on veut justement faire participer, justement être là pour nos entreprises locales dans notre région. Et on va débuter justement dans la MRC Les Moulins pour mettre en œuvre le déploiement de notre application. Oui.
Je ne demanderai pas comment coûte l'application, mais bon, elle ne doit pas être donnée, mais ça serait un bel investissement pour n'importe quelle entreprise.
Définitivement, c'est un bel investissement pour l'entreprise parce que les joueurs qu'on a présentement qui offrent, ils offrent pas le même produit que nous parce qu'on l'a développé, on est en 2026. Les autres plateformes sont plus dans les années 2015. Maintenant, nous, l'offre qu'on va faire aux entreprises, on est une entreprise québécoise, donc on comprend la réalité des gens. On veut récupérer justement le recrutement ici au Québec, au Canada, parce que présentement, c'est des plateformes américaines qui reçoivent les fonds du Canada ou à tout le moins du Québec, si on parle du Québec. C'est nos emplois, c'est nos candidats, mais le recrutement, tout le processus est facturé par des entreprises américaines. Donc, on veut vraiment se positionner pour reprendre le contrôle ici au Québec de notre recrutement avec des outils qui sont très technologiques et sûrement plus technologiques que ce qui existe là.
En un mot, c'est un beau pari.
Ouais, c'est un excellent pari. On est content de l'avoir fait. C'est sûr que j'aime ça le dire. Je sais pas s'il fallait que je le dise à la radio, mais tu sais, les idées technologiques, s'il y a personne qui finance ça au Québec, on n'est pas dans Silicon Valley. Là-bas, eux autres, quand tu as des bonnes idées, ils t'accueillent. Ici, au Québec, il faut vraiment faire nos preuves. Il faut développer le produit. Puis une fois qu'il est développé, là, tu reçois les appuis. Donc, on a développé, on a financé 100% l'application et tout le processus c'est de mise en marché là, où ce qu'on est rendu aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'appui justement de la région, puis on est content de l'avoir.
Ben, très belle initiative. C'était Daniel Larocque, le président de Phoenix Technologies, avec qui Régent Turgeon s'est entretenu. Je vous rappelle qu'ils ont mis au point là une nouvelle application qui se nomme Job Links pour donner un coup de pouce là aux sociétés qui sont aux prises avec des problèmes de recrutement de personnel. Il est 16h24 ailleurs dans l'actualité. Le Bloc québécois continue de dénoncer le cafouillage qui est lié là au nouveau logiciel qui prive des retraités de chèques de pension de vieillesse du gouvernement fédéral auquel ils ont droit. Ce matin, avant la période de questions aux communes, le chef du Bloc québécois, François Blanchet, s'est montré quand même assez indigné, d'autant plus que face au gaspillage de fonds publics qui sont associés à l'implantation de ce logiciel-là, évidemment, il y a de nombreux politiciens qui s'indignent.
Les coûts d'implantation d'un système informatique pour les pensions de vieillesse ont été pratiquement quadruplés. C'est une erreur, c'est une catastrophe financière. Imaginez qu'avec le dépassement de coûts de ce programme, on aurait pu financer les demandes de fin de la discrimination de la pension de vieillesse pour les aînés.
Et toujours à Ottawa, le chef conservateur Pierre Poilievre a présenté une main tendue au gouvernement libéral de Mark Carney pour faire avancer les dossiers aux communes là, sur un ton calme cet après-midi. Là, comme changé de ton là, depuis le congrès conservateur, Pierre Poilievre, avant la période de questions à Ottawa, déplorait toutefois là, en même temps les ratés du gouvernement sur fond de multiples fronts.
Donc aujourd'hui, mon message pour M. Carney, c'est que c'est le temps pour les résultats. On est prêt à travailler avec lui pour accélérer des politiques, pour rembourser les taxes libérale et l'inflation libérale. On est prêt à travailler pour accélérer les lois pour mettre les criminels en prison.
Et finalement, à Québec, le gouvernement va autoriser la colocation dans tous les logements à loyer modique à partir du 19 février. Le règlement modifié le permettant est publié aujourd'hui, d'ailleurs, dans la Gazette officielle du gouvernement du Québec. Québec indique que la mesure vise à optimiser l'occupation de ces logements et à améliorer leur accessibilité dans le contexte de crise du logement. Ce sera permis même dans les logements à loyer modique qui sont destinés aux familles. Il est 16h26.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
La métropolitaine pour Charles de Gaulle, c'est passablement dense à partir du boulevard du Tricentenaire et ça jusqu'à environ 500 mètres passés Henri Bourassa. Remarquez qu'on circule quand même à une bonne vitesse. La traversée est facile vers la rive nord du côté de Repentigny. De l'autre côté de Charles de Gaulle, c'est passablement dense jusqu'à la hauteur de la 640. Là. De l'autre côté de la 640, secteur Repentigny, ça se passe bien. Route 341, montée de l'Épiphanie entre la 40 et la rivière L'Assomption, c'est très lourd actuellement. Pont-le-Gardeur, pas si mal, autant par Sherbrooke que par Notre-Dame 25 Nord. C'est dense depuis le boulevard Lévesque et ça jusqu'à environ un kilomètre passé. La jonction avec la 440, secteur de l'île Saint-Jean, Terrebonne, Mascouche, 25 Nord, ça va bien. Pont-Sophie-Masson, facile en ce moment. Et finalement, autoroute 640 entre la 25 et la 40. C'est un peu dense à l'approche de la montée des Pionniers pour la 40. Direction ouest, un petit peu lourd, secteur de la montée du Mai. Les nouvelles dans un instant avec Pierre Jubinville.
Confiez votre véhicule à des pros de confiance. Chez Lustre Auto Saint-Félix, on redonne l'éclat d'un véhicule neuf grâce à notre gamme complète de services. Lavage intérieur et extérieur, cire rapide lustré, traitement aquapelle longue durée, restauration des phares et bien plus. Un service professionnel, des prix compétitifs et la satisfaction garantie. Venez nous voir au 4164 principal à Saint-Félix. Lustre Auto Saint-Félix, bon service, bon prix, puis un char qui brille.
Vous cherchez un entrepreneur pour tous vos besoins en climatisation, réfrigération, chauffage ou ventilation? Ne cherchez plus. Turcotte Réfrigération de Saint-Cuthbert, c'est plus de 30 ans d'expertise à votre service partout dans la Naudière et les environs. Résidentiel ou commercial, l'équipe expérimentée de Turcotte Réfrigération s'adapte à tous vos besoins, sans oublier un service courtois et toujours personnalisé. Faites confiance à une entreprise familiale vous offrant les meilleures marques, telles que Gree, Move Air et plusieurs autres. Turcotte Réfrigération, 450-836-7009.
Son X Plus vous offre une gamme complète de produits technologiques tels que téléviseurs, systèmes audio domotiques, produits connectés et systèmes de sécurité. Recevez un service personnalisé afin de vous aider à faire le meilleur choix. Merci de choisir une entreprise locale. Son X Plus, joliette.com.
L'embarquement pour le vol 246 à destination de Montréal est retardé de 50 minutes.
Ah, ben là!
On dirait que c'est l'heure d'Ojo.
Play Ojo? Bonne idée!
Profitez de tous vos jeux préférés comme Wolf Gold et Joker's Jewels et des jeux exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Youhou! J'ai gagné!
Sentir le plaisir, Play Ojo!
L'embarquement commencera dès que les passagers auront fini de célébrer.
Yeah! Ouvert à tous les joueurs de 18 ans et plus, il ne s'agit pas d'un site de jeu. Veuillez jouer de manière responsable.
Bingo! Jouer au Super Radio Bingo de CFNJ, c'est payant.
Ce soir, 19h30, bingo spécial avec la carte pleine à 5000$. As-tu tes cartes? La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
L'actualité de ce mercredi 4 février, en manchette. François Legault se mêle de la campagne à la direction de la CAQ.
On est tous pour le troisième lien, incluant les deux candidats.
Il ne reste plus rien du projet de loi 2 du ministre Dubé et trois démissions au nouveau conseil des ministres, plutôt conseil municipal de Sainte-Élisabeth. Et Pierre Jubinville, revenons-en donc à François Legault là, qui s'est mêlé de cette campagne à la direction de la CAQ, un espèce de jeu de belle-mère.
Oui, son message est court, mais il a l'avantage d'être clair. Il affirme que tout le monde à la CAQ, il dit bien tout le monde, donc Christine Fréchette y compris, est d'accord avec le projet. Mais Mme Fréchette, elle, n'a pas terminé sa réflexion. On va écouter le reportage de Louis Lacroix.
Troisième lien à l'est, au centre, pas de troisième lien du tout. Le ministre des Transports affirme qu'il ne peut lancer le processus d'appel de candidature sans connaître les positions exactes des candidats.
Pour aller au marché, ça prend certaines conditions. Il va falloir avoir ces conditions-là.
Dans le camp Drainville, la position est claire. La députée Karianne Bourassa croit qu'on doit aller de l'avant rapidement.
On ne doit pas reculer. On a joué dans le mauvais film de la tergiversation. C'est terminé.
Même discours du ministre responsable de Chaudière-Appalaches, Samuel Poulain.
Tout le monde savait, en entrant dans la coalition, que le troisième lien allait se réaliser.
Mais dans l'autre camp, c'est moins clair. Christine Fréchette veut prendre le temps de consulter avant d'aller de l'avant.
Moi, je veux l'analyser avec rigueur, pas dans l'émotivité. Je vais faire en sorte de vous présenter ma position dans quelques jours.
Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles, Québec.
Et Pierre, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure avec Pierre Paquette. Un nouveau projet de loi 2 qui est vidé de sa substance.
Oui, et la ministre qui l'a présenté, Sonia Bélanger, aujourd'hui, n'a pu décrire ses impacts réels sur les patients. Elle affirme que l'entente avec la Fédération des omnipraticiens augmentera de façon importante la capacité des gens à voir un professionnel de la santé. On a déjà entendu ça depuis plusieurs années. La ministre promet quand même qu'un 500 000 de patients auront accès à des soins et que la structure des GMF sera revue.
Au mois d'avril, on doit avoir déposé un modèle GMF. On est en train de le construire, là. Et bien sûr, pour le 30 juin, notre objectif, c'est les 500 000. Vraiment, on n'est pas dans du travail conceptuel ici. Là, on est dans du travail pour que ça atterrisse sur le terrain.
Parti libéral du Québec, Geneviève Hinds, qui donne sa version des faits.
Elle réplique à Marois Risky dans un document qui a été déposé aujourd'hui en Cour supérieure. L'ex-directrice de cabinet de l'opposition nie avoir voulu payer des employés avec des fonds de l'Assemblée nationale pour faire du travail partisan pour Pablo Rodriguez. Elle nie aussi avoir menti à Mme Risky qui l'a congédiée en novembre. On se rappellera que lundi, la version de la députée de Saint-Laurent a été présentée dans un document juridique.
Scène municipale, maintenant, rien ne va plus encore une fois là, du côté de Sainte-Élisabeth.
On ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a un communiqué qui a été publié aujourd'hui sans donner les motifs de 3 démissions qui auront lieu demain, qui sont confirmées demain. Il s'agit de Nathalie Lefebvre, Mélanie Carrière et Marc Longchamp. Ces démissions sont donc officialisées demain lors d'une assemblée spéciale du conseil municipal. Il faut rappeler, Claude, que la tutelle avait été imposé le 25 juillet à Sainte-Élisabeth sous l'administration du maire Louis Bérard. Elle a été levée le 9 décembre et une toute nouvelle équipe avait remplacé celle de M. Bérard.
Un mouvement de solidarité s'organise pour les travailleurs étrangers.
Oui, l'incertitude s'est installée chez ces gens en raison du retrait du programme Expérience Québec et son remplacement par le programme de sélection des travailleurs qualifiés. Ce programme est qualifié d'ailleurs d'inefficace par le monde des affaires et des municipalités. Des cœurs bleus apparaissent à la boutonnière des manteaux. Le maire de Mascouche et président de l'Union des municipalités, Guillaume Tremblay, en porte un.
On parle pas ici de programmes, on parle d'humains qui sont présentement devant... Ils savent pas ce qui va arriver demain matin pour eux. Donc, on est de cœur avec vous. Donc, j'invite les conseillers, conseillères, maires, mairesses, la population du Québec à porter fièrement ce cœur bleu en soutien de ses citoyens.
À Ottawa, maintenant, le premier ministre Mark Carney qui met fin à un poste controversé.
C'est une grosse nouvelle et ça met fin à l'ère Trudeau. On se rappellera les postes de représentants spéciaux contre l'antisémitisme et l'islamophobie avaient été créés. Pour créer maintenant un nouveau conseil consultatif. Les personnes qui occupaient ces postes se sont donc congédiées. La représentante spéciale de la lutte contre l'islamophobie, Amira El-Gabawabi.
Oui, qui a été très controversée.
Oui, avait semé la controverse dès sa nomination, notamment en raison de propos datant de 2019, où elle affirmait qu'une grande partie des Québécois étaient animés d'un sentiment anti-musulman à cause de la loi sur la laïcité. Alors, elle s'est excusé, mais le mal était fait.
À Montréal, des voleurs bien particuliers sont à l'œuvre.
On les appelle les Robins des ruelles. C'est un groupe de militants qui commet des vols de nourriture dans des supermarchés. Hier, ils se sont rendus dans une succursale Rachel Berry à l'intersection Saint-Laurent et Villeneuve. Et dans un communiqué, le groupe dénonce les profits de la chaîne Sobeys, qui est propriétaire de l'établissement, indique que la nourriture a été redistribuée dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Une enquête a été ouverte, comme l'explique Jean-Pierre Brabant du service de police.
Au cours des prochaines heures, là, il y a des caméras de surveillance qui seront visionnées par les enquêteurs là, pour un peu d'informations sur l'événement en soi. À ce moment-ci, il n'y a pas d'arrestation, mais les enquêteurs là, qui vont vérifier avec les informations obtenues pour tenter là, de voir si on pourrait pas identifier les personnes qui étaient impliquées dans l'événement.
C'est particulier comme mouvement, c'est à voir si ça va se répandre ailleurs au Québec.
C'est ça.
Et finalement, à Notre-Dame-des-Prairies, pas de patinoire réfrigérée pour la Saint-Valentin.
Alors, pas de patinoire, les activités prévues au parc Amable Chalut n'auront pas lieu. C'est un retard dans la livraison des équipements nécessaires à la réfrigération qui explique la chose, alors c'est pas pratique.
Tant il fait froid.
Oui, mais ça étonne pas, patinoire réfrigérée,
oui.
Alors avec un beau toit.
Oui.
Mais ça fonctionne pas.
Ben merci beaucoup, Pierre Jubinville.
Salut,
il est 16h37.
Lanaudière PM.
Lanaudière PM.
Claude Fournel.
CFNG.
Lanaudière PM. Environnement.
Des représentants de la Fédération de l'UPA Lanaudière dénoncent le projet de train à grande vitesse entre Québec et puis Toronto. Ils ont fait valoir leur point de vue lors d'une journée portes ouvertes hier du côté de Terrebonne. Le président Marcel Papin, qui craint une répétition du fiasco de l'aéroport de Mirabel, l'UPA qui estime qu'on devrait privilégier un train à grande fréquence. On peut écouter là-dessus Marcel Papin et Simon Duval. Simon Duval, il est second vice-président de l'UPA dans Lanaudière, qui ont été interrogés là, par le collègue Régent Turgeon.
C'est un projet qui nous inquiète beaucoup. C'est un projet qui va scinder le Québec, surtout la rive nord du Saint-Laurent, du nord au sud, qui va impacter beaucoup de fermes qui vont être embarrassées par ce projet-là, parce que vous savez, un train à grande vitesse, tu ne peux plus le traverser, là, c'est une barrière à vie. Probablement qu'il va y avoir quelques traverses à l'occasion, mais c'est un projet pour la zone agricole qui est catastrophique pour les producteurs.
Vous semblez dire que vous avez été averti de ce projet-là un petit peu sur le tard.
Très tard. On a commencé à le savoir en décembre 2025. Puis là, les rencontres qu'on a eues, c'est un dossier qui est urgent ou presque urgent, puis ça presse, puis on va aller voir, puis en tout cas, pour un si grand projet de plusieurs milliards de dollars en passant.
Ça semble, à vous écouter, ressembler ce projet-là à ce que des agriculteurs ont déjà vécu dans le passé, le fameux dossier Mirabel. On peut faire un parallèle?
Oui, un très grand parallèle. Surtout que c'est un projet du gouvernement fédéral qui était à l'époque commencé par la Trudeau-manie. Puis là, est-ce qu'on a su que le projet est en force depuis février? C'est Trudeau le fils qui veut faire la même chose que son père. Il n'a pas eu la leçon que son père a subie. Excusez, là, c'est personnel, là, en tout cas.
Mais vous voulez quand même vous faire entendre, là, parce que c'est pas les décisions vont pas se prendre demain matin, là.
Ils se prendront pas demain matin, mais les discussions qu'on a eues, ça semble être avancer les dossiers. Là, on nous parle d'un corridor, là, plus ou moins de 8 à 10 kilomètres qui traverse le nord au sud. C'est facile à dire, ça. Mais exactement où est-ce que ça va passer, on pense bien que ça va traverser dans les meilleures terres de la rive nord.
Ça pourrait empiéter dans la culture, dans les maraîchers, tout ça.
Ben oui. Une terre qui est scinde en deux. Surtout que tu n'as aucune traverse pour aller de l'autre côté, exemple, en tout cas.
Il va y avoir des désavantages. Monsieur Duval, on vous a écouté tantôt à l'extérieur. Vous semblez préconiser, en tout cas certaines études semblent préconiser une alternative au TGV.
Oui, exactement. Moi, j'ai lu un mémoire qui a été déposé par des professeurs émérites d'université. Puis, eux disent que le TGV, c'est pas réaliste dans notre climat. En Scandinavie, il n'y en a pas de TGV. Ce sont des trains à grande fréquence, des TGF, donc qui roulent beaucoup moins vite, puis qui peuvent utiliser des emprises qui sont déjà existantes. Donc, pas besoin de venir fracturer le territoire agricole en deux, parce que le projet d'Alto, le TGV qui veut rouler à 300 km/h, doit être extrêmement linéaire, avec un rayon de courbure. Là, pour faire une simple courbe, ça prend 7 km. Donc, on comprend là, qu'ils pourront pas éviter des terres très fertiles, tout ça, tandis qu'une option de TGF, en tout cas, selon le mémoire que j'ai lu, ce serait probablement beaucoup plus logique pour nous. Puis à un moment donné, c'est un choix de société, tu sais. On peut construire des TGV où on peut se nourrir avec nos terres agricoles. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a moins de 2% de terres cultivables au Québec. Puis ça, peu importe qu'est-ce qu'on décide de faire avec, des TGV, des éoliennes, des lignes de transport d'électricité, mais la piscine, notre bassin de terres agricoles, il peut pas augmenter. Il peut juste diminuer. Donc, le but, c'est de le faire diminuer le moins possible. Puis quand il y a des alternatives, ben, je pense qu'il faut se poser la question.
M. Papin, c'est un dossier éminemment politique avec des ramifications pratiques, évidemment. Après avoir dénoncé, est-ce qu'on peut parler de moyens de pression? Où est-ce qu'on s'en va à partir de maintenant? Parce qu'on l'a dit tantôt, les décisions ne se prennent pas demain matin, là.
Non, c'est sûr que ça ne se prend pas demain matin. Nous, on commence. C'est le syndicat de l'Assomption Les Moulins qui débute. Puis, on va se faire entendre sur toute la rive nord du Québec.
On vient d'entendre Marcel Papin, président de l'UPA Lanaudière, et Simon Duval, qui, lui, est second vice-président à l'UPA Lanaudière. C'est Régent Turgeon qui les a rencontrés. Lorsqu'on parle de train à haute vitesse, train à grande vitesse, le TGV, on parle de 300 km/h. Je suis pas convaincu du climat, le climat nord-américain pour accueillir ce train-là. D'ailleurs, Simon Duval en parlait. 300 km/h, moi je pense même au REM à Montréal qui est toujours en panne, il y a une moindre petite tempête de neige où il tombe 2, 3, 4 cm, puis il y a des retards au REM où le REM est carrément arrêté, imaginez avec un TGV. En tout cas, je suis pas tout à fait convaincu, mais bon, je suis pas l'expert, je suis pas ingénieur, mais quand même, je me dis que en Amérique du Nord, c'est peut-être pas, en tout cas au Québec du moins, là, peut-être pas l'endroit idéal pour ça. Il est 16h43, dans un moment, Pierre Paquette.
Jouer au Super Radio Bingo de CFNJ, c'est payant.
Toujours 5 000 $ à gagner dimanche à 10h05 avec les trois jeux et mercredi, bingo spécial à 19h30, carte pleine à 5 000 $. Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Joliette, dépanneur Jean-Louis, dépanneur Filgo, dépanneur Polo, dépanneur Proxy Extra Arnois, Tabagie 636, dépanneur Michel Caram, dépanneur Nico, dépanneur Couchetard, dépanneur Marie, dépanneur Beaussoir Pétro-Canada, épicerie Forêt et pharmacie Nancy Gaudreau à Saint-Charles-Borromée, dépanneur Couchetard, dépanneur Rapido, dépanneur Bonissoir Shell, dépanneur Saint-Charles, IGA Marché C&C Le Thor, à Saint-Pierre, dépanneur J&G, à Notre-Dame-des-Prairies, dépanneur 350 Bonissoir, dépanneur des Prairies et Marché Philippe, et à Saint-Paul-de-Joliette, dépanneur Bonissoir, dépanneur Proxy Extra et Shell Saint-Paul. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Chez Fromagerie Victoria, nos déjeuners sont débordants en plus d'être à petit prix. Servis jusqu'à 11h en semaine et jusqu'à 13h les week-ends. Ça commence bien la journée. Fromagerie Victoria, 791 rue Gadoury à Berthierville.
Les Filles du Nord, c'est pas seulement un nom, c'est une manière d'habiter notre métier.
Il y a des maisons qui ont vu pousser des enfants à coups de rire et de grandeur gravés dans les cadrages. D'autres qui ont été retapés à coups des manches retroussées d'un dimanche bien fatigué.
Quand vient l'heure de passer le flambeau, on prend le temps, comme on plie une courte poigne, cousue à la patience.
Avec ceux qui laissent un foyer derrière, on veille à ce que le fruit de tout ce qui a été bâti trouve preneur à sa juste valeur.
À ceux qui cherchent un nouveau toit, on balise le chemin pour que chaque détour ait du sens et chaque pas sa raison.
On marche aux côtés de ceux qui quittent autant qu'avec ceux qui arrivent. Le cœur pour comprendre, la tête pour guider et les compétences pour évaluer.
Les Filles du Nord, une manière de travailler qu'on cultive avec fierté.
Les Filles du Nord, équipe immobilière et Max Prestige, 514-503-8684.
Au concert du dimanche à CFNJ, Morane.
Aïe, 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 aïe.
Le concert du dimanche, dimanche matin, 7h à CFNJ.
À CFNJ, voici le commentaire de Pierre Paquette.
Salut Pierre.
Salut, ça va?
Ça va très bien. François Legault qui joue déjà la belle-mère à Québec, puis qui sème, on peut dire, une certaine discorde là au sein de la CAQ.
Ah ben oui, là, je pense que d'ailleurs, on l'avait mentionné déjà dans une autre émission, là. C'est sûrement une patate chaude pour eux, le troisième lien, dans la course à la chefferie, parce qu'il est clair que Mme Fréchette n'est pas très chaude à l'idée. D'abord, c'est un coût énorme, là. On parle de 7 à 11 milliards de dollars pour donner un peu un ordre de grandeur. Le CHUM à Montréal a coûté 3 à 4 milliards de dollars. Donc, c'est quasiment le double, si c'est pas plus, pour faire ce troisième lien. Alors, est-ce qu'on a les moyens de faire ça? Est-ce que c'est vraiment utile? Même la Caisse de dépôt et de placement qui avait fait une étude avait dit que c'était pas vraiment nécessaire, étant donné, en regardant là, les besoins en termes de mobilité. Alors, donc, ça, c'est Mme Fréchette, je pense, a une position qui est plus réfléchie, mais qui est moins politique du point de vue de la CAQ. Et là, Drainville rentre à fond dans ce problème-là, parce que lui, il s'est toujours affiché pour le troisième lien. Il avait fait campagne en 2022 sur le troisième lien. Il s'est senti floué quand Beau a dit en 2023 qu'il n'y aurait pas de troisième lien. Puis donc, là, il prend sa revanche.
Oui, mais rappelons que Bernard Drainville est député de Lévis et sa circonscription est en plein dans le site du troisième lien, c'est-à-dire que sur la rive sud de Québec, ben, les gens en veulent d'un troisième lien. Là. Alors, oui, donc,
personne ne s'entend où est-ce que le troisième lien va partir puis va arriver.
Oh, il y avait été question de même passer dans le coin de l'île d'Orléans à un moment donné.
Ben, oui.
Puis, sauf que, c'est certain que Bernard Drainville veut se faire du capital politique là-dessus dans la région de Québec, tenter de sauver les meubles pour la CAQ.
Oui, je pense qu'il y a de ça, puis aussi sa propre campagne au leadership. C'est sûr que tous les députés de la région de Québec se sont prononcés aujourd'hui en faveur du troisième lien, puis ont appelé Mme Fréchette à être plus claire sur ses positions. Elle a demandé encore quelques jours de réflexion. Je pense qu'elle elle n'est pas convaincue de la nécessité de ce troisième lien-là, mais elle n'aura aucun choix, elle n'a plus de choix, étant donné que François Legault déjà a mis son imprimatur sur le troisième lien. Alors, moi, je la verrais mal contredire son chef, même si tout le monde veut prendre ses distances avec Legault dans la course à la chefferie qui se mène présentement.
Mais justement, parlons-en de cette intervention de François Legault aujourd'hui, Pierre. Je trouve que peut-être qu'en tant que premier ministre démissionnaire, François Legault aurait peut-être dû aller s'installer sur les banquettes arrière, là.
Oui, peut-être qu'il aurait pu faire ça, mais il y a bien des anciens premiers ministres qui n'ont pas fait. Je pense à Jacques Parizeau, là, ça me vient tout de suite en tête, même Lucien Bouchard. Le droit de réserve, ils n'ont pas vraiment compris ça. Je pense que Legault veut être sûr qu'il n'y aura pas de retour en arrière concernant le troisième lien, puis il est en train de ficeler le projet aussi bien du côté de Mme Fréchette que du côté de Drainville. Alors, c'est un peu comme son héritage là, qu'il est en train de présenter à la population à travers cette déclaration-là. Et je suis convaincu que Mme Fréchette est vraiment très embêtée parce qu'elle, comme je le mentionnais déjà, elle n'est pas convaincue de l'utilité de ce troisième lien, d'autant plus qu'il va coûter une fortune. Et donc, elle réfléchit, mais je pense qu'elle n'aura pas le choix.
Si on regarde les sondages concernant la course à la direction de la coalition Avenir Québec, Christine Fréchette a une très bonne avance, et non seulement dans les sondages, mais au niveau des députés, des appuis à l'intérieur même de son parti. François Legault, en posant ce geste-là aujourd'hui, pourrait pas nuire à son parti, tu penses?
Ben moi, je pense qu'il va créer de la division. Mais ça va dépendre de la réponse de Mme Fréchette. Moi, comme je l'ai mentionné, je pense qu'elle n'aura pas le choix. Elle va être obligée d'avaler la pilule. Mais si jamais, après sa réflexion, elle en venait à la conclusion que le troisième lien n'est pas pertinent, là, ça va créer beaucoup de divisions au sein de la CAQ. Alors, j'ai pas l'impression, moi, qu'elle va aller de ce côté-là. C'est vrai qu'elle a beaucoup d'appui, mais M. Drainville a réussi quand même à aller chercher 15 signatures de ministres pour présenter sa mise en candidature. Donc, ça veut dire qu'il y a des ministres qui ne l'appuient pas, mais qui ont cautionné sa candidature. Alors ça, c'est un petit peu étrange.
Est-ce que, parce que là, on voit que Bernard Drainville a pris la balle au bon et s'en est pris à Christine Fréchette. Depuis le début de cette course à la chefferie, il n'y avait pas vraiment d'attaque ou c'était assez calme. Mais là, là, on dirait qu'il y a un vent d'hostilité qui commence à se lever, là.
Oui, mais je pense qu'il avait pas le choix parce qu'il était vraiment le outsider, là, comme il l'a dit lui-même. C'était pas le choix de l'establishment du parti de la CAQ. Alors, il n'y a pas le choix que de bomber le torse puis de chercher à impressionner. Moi, faut pas le donner perdant parce que Bernard Drainville, on le connaît, là, c'est un gars qui est capable de louvoyer dans n'importe quelle circonstance. Il a été ministre au péquiste. Au Parti québécois, il a été celui qui portait la charte des valeurs, puis là, il porte un autre projet complètement. Donc, c'est un gars qui est capable de dire une chose et son contraire. Je pense que Mme Fréchette est plus réfléchie à cet égard-là, mais en même temps, on sait qu'en politique, c'est pas toujours les positions les plus réfléchies qui gagnent, mais je pense que dans ce cas-ci, là, c'est vraiment son va-tout là, que Drainville joue.
Oui, il est très combatif, faut le mentionner. Et contrairement à ce que disait le collègue Jacques Plante hier, qui lui croit que Bernard Drainville va se rallier là à Christine Fréchette, moi j'ai plutôt l'impression qu'il va se rendre jusqu'au bout.
Ben, je suis d'accord avec toi.
Si ça fait pas son affaire, s'il est pas content du résultat de tout ça, ben il va quitter, il va claquer la porte et il va se retrouver avec le Parti conservateur d'Éric Duhaime. C'est mon impression.
J'irai pas jusque-là, mais c'est une hypothèse qu'on peut étudier. Mais ceci dit, je pense qu'il va aller jusqu'au bout. Tu as tout à fait raison. Et puis, de toute façon, il n'y a rien à perdre, lui. Après tout ce qu'il a fait dans sa carrière politique, être au PQ, ministre pour la Charte des valeurs, faire un discours de droite là, anti-syndical à ce point-là. Alors, moi, effectivement, je m'attends à tout du côté de Drainville, mais je pense que Christine Fréchette a quand même plus de crédibilité que...
Merci, Pierre!
Merci, on se revoit la semaine prochaine.
Je salue nos collaborateurs à l'émission aujourd'hui, Régent Turgeon, Pierre Jubinville, ainsi que Pierre Paquette, ici Claude Fournel. Passez une excellente soirée, on se retrouve demain, on sera là à 16h.